les podcasts de l'UA.
Bonjour et bienvenue sur le podcast PICT, penser, traduire et représenter les corps, dire l'intime.
Nous sommes Ludivine Bouton-Kelly et Agatha Moringue, maîtresse de conférence à l'Université d'Angers.
Chaque mois, nous interrogeons des chercheuses et chercheurs, des traducteurs et traductrices, ainsi que des artistes, afin d'analyser de manière transversale les représentations complexes des corps et de l'intime dans les arts et la culture populaire.
À travers le prisme de la traduction et de l'étude des représentations, nous parlerons poésie, théâtre, peinture et bande dessinée. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nina Jambrina et Gabriela Serban. Elles viennent nous parler de leur projet commun, la traduction et la mise en scène de Los difusos finales de las cosas, une pièce de théâtre colombienne d'Enrique Lozano. Notre entretien sera ponctué de lectures dramatiques correspondant à quatre personnages et moments clés de la pièce. Ces extraits seront signalés par la virgule sonore suivante. Bonne écoute!
Ben bonjour, moi je suis Nina Jambrina, je travaille à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Je suis docteur en art du spectacle et je travaille sur la dramaturgie latino-américaine contemporaine, notamment le théâtre politique. Et actuellement, je suis en poste comme ingénieur d'études dans le laboratoire Alela Creatis.
Et bonjour, je m'appelle Gabriela Serban. Je travaille pour ma part à l'université Lyon 3 je suis pour ma part docteur en études hispaniques, hein, mais j'ai travaillé sur quelque chose d'assez proche de Nina puisque je travaille aussi sur le théâtre latino-américain contemporain, plus spécifiquement colombien, et notamment sur des questions de genre.
Alors le projet autour de ce texte, Los difusos finales de las cosas, d'Enrique Lozano, un auteur colombien, commence il y a plus de 10 ans, quand moi j'étais en master pendant mes études en art du spectacle à Paris 3. En fait, ce texte, je l'ai découvert en licence, avant même de connaître l'Amérique latine, la Colombie, ou de savoir que je voulais me spécialiser en théâtre latino-américain. Mais c'est un texte qui m'a beaucoup interpellée. Je l'ai découvert d'abord en français, dans une traduction qui existait, à ce moment-là, de l'Alliance française, puisque ce texte a été lauréat d'un concours de dramaturgie. Et puis après, je suis partie en mobilité en Colombie, en licence 3, et je suis retombée par hasard sur le texte, mais cette fois en espagnol. Donc ça a confirmé mon envie de travailler dessus. Et en même temps, je me suis rendu compte que la traduction qui existait, elle était peut-être un peu en deçà, quoi, de tout ce qui m'intéressait dans le texte en langue originale. Et donc en master, j'ai décidé pour pouvoir y travailler dessus, de retraduire en fait Los difusos finales de las cosas. Et pour ça, j'ai co-traduit avec d'autres personnes, parce que moi-même, c'était ma première traduction. Et je viens des arts du spectacle. Donc j'ai travaillé avec des personnes hispanophones, des personnes de théâtre. Peut-être pour vous situer un petit peu l'auteur de ce texte, c'est Carlos Enrique Lozano Guerrero, qui est colombien et qui vient plus spécifiquement de Cali. Il a commencé vraiment à travailler et a commencé sa carrière dans les années 90. Et c'est typiquement un auteur, un dramaturge, mais du coup aussi un metteur en scène, un pédagogue, qui fait partie d'une génération qui a pas mal remis en question la génération précédente, et notamment le lien qu'avait cette génération précédente au théâtre politique. Donc un théâtre qui était forcément politique, qui était engagé, qui avait une dimension idéologique forte. Et Enrique Lozano, avec d'autres collègues de sa génération, ont remis en question cette manière de faire du théâtre politique pour le faire autrement. Du coup, ces textes sont très, très expérimentaux en termes de forme. Ça remet vraiment en question les textes classiques de théâtre. Il va beaucoup hybrider des genres théâtre, roman, poésie. Il va faire des récits absolument fragmentés ou pas du tout linéaires. Il va beaucoup travailler sur la narration, comme on verra dans ce texte-là, Los difusos finales de las cosas, comment mettre par exemple des narrateurs sur scène. Et du coup, comme Gabriela, toi, tu l'as développé dans un article dont on vous reparlera, il y a cette idée d'écriture nomade qui va explorer plein d'esthétiques différentes, naturalisme, réalisme, onirisme. Et en même temps, Gabriela, toi, tu fais le lien avec sa propre expérience très internationale, en fait. Henrique Lozano, il a vécu en Europe, en Australie, aux États-Unis, et aujourd'hui, il vit en Argentine.
Et il avait lui-même assez insisté sur le fait qu'il avait un peu butiné des techniques, des expériences, des inspirations un peu partout. Et je pense que, enfin, c'était mon hypothèse sur laquelle je suis encore en train de travailler en ce moment, sur le fait que ça participe à cette plasticité, cette hybridité vraiment particulière de son écriture, qui font que c'est vraiment un auteur où c'est le plus dur de le qualifier globalement, de trouver un fil rouge. On peut le trouver, mais il est assez subtil, puisqu'il expérimente et il fait des choses très différentes. Il fait des choses très mimétiques et très réalistes, il fait des choses très oniriques, c'est vraiment... Il n'y a pas de texte qui se ressemble. D'ailleurs, il me semblait pour l'anecdote que le dernier prix qu'il avait gagné en Colombie, c'était de manière anonyme, comme toujours. Et en fait, il a eu deux années de suite, le prix. Et tout le monde avait été extrêmement surpris que ce soit lui, l'auteur du deuxième, parce que le jury était sensiblement le même, puisque le deuxième texte n'avait absolument rien à voir avec le premier. Donc, enfin, ça, c'est assez symptomatique de ce côté caméléon qu'il a.
Pour revenir au texte, donc Los difusos finales de las cosas, dont je vous parlais de la rencontre, en 2009, j'ai décidé de traduire en 2012 dans le cadre de ce master. Et pour précision, la pièce elle date de 2006. Elle a été écrite en 2006. Rapidement, l'expérience de traduction, comme je vous disais, c'était ma première traduction, qui arrivait donc plus par nécessité. Puisque j'avais envie de rendre autrement ce que je retrouvais dans la langue originale. Donc je me suis lancée et je me suis vite rendu compte que j'avais besoin d'autres personnes qui puissent m'aider à traduire, une personne hispanophone, une personne de théâtre avec qui j'ai vraiment traduit la plus grande partie, Justine Duval. Et puis surtout, une nécessité de lecture avec des interprètes pour... expérimenter la traduction, la polir, voir qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui accrochait, qu'est-ce qui était vraiment trop difficile à dire, puisque comme on le suggérait, les textes de Henrique Lozano, ils sont quand même vraiment expérimentaux, donc au niveau de la langue, au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, ça a rien de classique. Et puis c'est vrai que moi c'était un master en études théâtrales, donc le but était de traduire, mais d'en faire en même temps l'analyse. C'est-à-dire d'articuler traduction et dramaturgie. Comment traduire, c'est une manière aussi d'analyser un texte d'une certaine manière, comment ça nourrit son appréhension, et comment la traduction est peut-être transformée aussi par une approche attentive à cette question de l'interprétation d'un texte, de sa projection pour le futur sur la scène, etc. Donc voilà, j'arrive avec ce texte à Toulouse. Et je pensais pas forcément qu'il allait y avoir de suite, mais là j'ai rencontré Gabriela.
Et là on s'est rencontrés, et comme je disais, on était toutes les deux à travailler sur le théâtre colombien, et je suis à peu près convaincue qu'on était les seules en France à ce moment-là, je pense, enfin à peu près. Donc on a partagé un peu nos expériences de lecture, de découverte de textes, et c'est vrai qu'on s'est trouvé un intérêt commun pour ce texte en particulier, et on avait lancé l'idée qu'un jour on aimerait bien le monter. Pour l'instant, au départ, c'était un projet un peu vaporeux, ça aurait pu ne jamais se concrétiser, mais on a eu une opportunité. Une collègue qui montait un colloque à Strasbourg, qui me connaissait parce qu'elle avait vu une pièce que j'avais montée auparavant, qui nous a demandé si on serait intéressé à l'idée de monter une pièce pour un colloque sur la thématique de la famille. Un colloque sur le théâtre latino-américain avec comme axe thématique la famille. Et du coup, on a considéré que c'était vraiment l'opportunité. Ça nous laissait un an. Et donc, c'est là qu'on a monté notre compagnie qui s'appelait la compagnie Tilde Cédille. Donc, Tilde, un signe de l'espagnol, et la Cédille, un signe du français. Avec l'idée qu'on allait essayer de conjuguer nos casquettes de femme de théâtre et d'universitaire pour essayer de valoriser ces textes de théâtre latino-américain de plein de manières, à savoir d'un côté la traduction, l'analyse des publications d'articles, et surtout le principe de cette compagnie, de les monter, de les représenter, de les donner à voir et pas seulement à lire.
Voilà, donc là, la traduction, c'est vrai qu'elle a forcément été amenée à bouger. Gabriella, toi, t'as vraiment été en charge de la mise en scène. Et moi, j'étais plutôt dans le jeu. Toi aussi, tu jouais, t'interprétais un personnage. Mais ce qui était hyper intéressant pour moi, qu'il avait étudié pendant 2 ans en plus, Master 1, Master 2, et qu'il avait traduit, de voir comment, en fait, les bons textes, tu les épuises pas, en fait. Il y a un truc où tu continues à découvrir des choses très différente, parce que là, la manière de l'aborder, c'était la scène. Donc, il y a eu en effet des nécessités de changer certains mots, certaines tournures, une petite partie de la ponctuation qu'on voyait avec le contact de la scène nécessaire.
Et du coup, peut-être revenir sur ce qui nous a plu dans ce texte à la base, pour ce qui nous permettra par la suite de développer un peu à quoi il ressemble, puisqu'on en a pas encore beaucoup parlé. Toutes les deux, ce qui nous a frappé sur ce texte, c'est que à la première lecture, on a l'impression que on n'a pas du tout l'impression que, enfin, c'est très universel. On n'a pas du tout l'impression que ça se passe particulièrement en Colombie. Ça pourrait se passer presque n'importe où ailleurs. Et c'est parce que ça traite de thématiques qui nous parlent aussi en tant qu'Européens. Et notamment, parmi les thématiques, je pense qu'on continue à en trouver des nouvelles parce que c'est un texte très riche. Mais les premières thématiques qui nous ont intéressé, il y avait vraiment des thématiques relatives aux relations sociales, notamment à la famille, aux relations amoureuses. Il y avait notamment un questionnement par rapport au genre qui, moi, m'a intéressé dans ma thèse, très clairement, puisque le personnage principal, le nœud de l'histoire, c'est que le personnage principal, qui est elle, tout le monde lui reproche d'être anormale, une des pistes d'analyse, c'était qu'il y avait vraiment quelque chose par rapport au genre, puisque on va remarquer que si elle avait été il, de toute évidence, ça n'aurait pas été un problème. Mais il y avait aussi toute une question des difficultés à communiquer, qui est due à la forme de la pièce, sur laquelle peut-être que je te laisse revenir, sur le principe de développer un peu plus cet aspect-là.
La pièce, elle est composée de 5 personnages. Et ces 5 personnages, ils tournent autour d'elle. Voilà, c'est le nom qu'on a. Donc, comme disait Gabriella, où il s'agit de personnes autour d'elle qui font partie de sa famille, qui font partie de son boulot, de ses relations amoureuses. Mais en même temps, comme dit Gabriella, on voit qu'il y a un problème de communication, où finalement les liens entre ces personnages, à un premier niveau en tout cas, il n'y a pas de vrai dialogue, de communication, de relations vraiment authentiques.
Et cela au sens littéral, pas seulement au sens métaphorique.
Voilà, les gens ne se répondent pas. C'est une espèce d'enchaînement de dialogue de sourds, de monologue extérieur, d'une certaine manière, les personnages étant la mère d'elle, son amant, son compagnon, et l'homme âgé, voilà.
Son amant étant aussi son patron, par ailleurs.
Et après, le fonctionnement qui fait qu'il se passe quelque chose autour de ce noyau, c'est que les personnages sont en même temps des narrateurs de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils se dédoublent, ils sont à la fois personnages d'un niveau de fiction, voilà, on a les histoires entre mère et fille, avec l'amant, avec le compagnon, mais en même temps on a ces personnages qui, dans certains moments de leur parole, vont raconter finalement le récit de ce qui est en train de se passer. Et du coup on a comme deux niveaux comme ça, un niveau de fiction et un niveau de narration, on pourrait dire, sauf que il y a une espèce de perméabilité entre les deux niveaux. Il y a, en fait, entre les 5 personnages, un spectre justement sur cette question de la narration et de l'intrusion dans la narration au sein du dialogue. On a un personnage qui est à l'extrême de ce spectre, qui est l'homme âgé, qui, lui, va seulement être narrateur, qui va jamais interagir dans la fiction. On a de l'autre côté du spectre le personnage de lui, qui est le compagnon d'elle et qui, lui, n'est que plongé dans la fiction. Enfin, à un moment donné, il a un recul un niveau méta où il va commenter l'histoire. Et au milieu, on a donc le personnage d'elle, qui est bien dans la fiction, mais qui, à un moment donné, aucun moment donné, répond aux autres personnages, interagit.
Et qui parle d'elle-même à la troisième personne. C'est-à-dire qu'elle... elle est dans la fiction parce que les autres parlent d'elle, mais elle-même parle d'elle à la troisième personne. Ce qui en fait un personnage un peu hybride entre le narrateur total et le personnage dramatique.
Et il y a aussi donc les deux autres personnages, la mère et l'autre, qui eux sont à la fois des personnages de fiction, enfin, comme lui, et en même temps qui vont se mettre aussi à participer à la narration de l'histoire. Donc c'est vrai qu'il y a ce niveau fictionnel, relationnel de base qui semble assez stagnant, où les relations sont très compliquées, où la communication est compliquée, et en même temps cette communauté de narrateurs, narratrices, qui eux, en fait, petit à petit, se mettent à accaparer l'action. C'est vraiment là qu'il se passe des liens, des choses, ou en tout cas qui nous permettent d'aborder les personnages dans une humanité, dans une sensibilité différente. Dans la cuisine de la mère. La mère sait qu'à présent, elle a assez vécu. Elle ne veut pas en finir avec la vie, mais elle a conscience que si la mort arrivait subitement, ça ne serait pas une surprise désagréable.
Pas complètement.
Ça ne serait pas complètement désagréable. La mère pense que son devoir sur Terre est terminé. Elle pense que chacun vient sur Terre avec une tâche à accomplir, que chacun a une raison d'être là. Sa raison d'être a été d'accoucher d'elle, sa fille, ensuite de l'élever. Son mari voulait d'autres enfants, mais heureusement, elle a su comment éviter ça.
Ça n'aurait qu'alourdi sa tâche, ça n'aurait que prolongé sa responsabilité.
Maintenant, son mari est mort, maintenant son corps est une plaine déserte.
La mère croit être au meilleur moment de sa vie. Chaque jour, en se réveillant, elle sourit, certaine de n'avoir aucune obligation.
Enfin, bien sûr qu'elle sort, bien sûr qu'elle fait les courses nécessaires, bien sûr qu'elle discute avec ses amis, bien sûr qu'elle va au cinéma de temps en temps. Mais elle sait au fond que ses activités ne sont pas indispensables. C'est juste ce qu'elle fait en attendant que le compte à rebours s'achève.
Ça la rassure.
Ça lui permet de marcher sans se presser, manger avec appétit, tricoter sans raison, parler avec elle en toute franchise.
Parce que, juste pour terminer sur cette description du principe qui est, c'est que le moment où ils sont narrateurs, c'est y compris pour des choses qui peuvent être des didascalies très fonctionnelles, type elle mange des biscuits, ou la lumière s'allume, enfin ce genre de choses, est absolument désinvesti d'émotions, et c'est-à-dire que quand ils deviennent commentateurs, ils deviennent omniscient, ils ne sont plus le personnage incarné avec toutes les émotions qu'ils nous ont partagées dans l'heure de leur monologue au moment où ils étaient dans leur personnage dramatique. Donc il y a ce côté un peu déroutant à la lecture et à la mise en scène notamment.
Et au jeu, puisque du coup c'est voilà, plein de défis pour comment on traite ces paroles presque didascaliques. Comment on les articule au moment où il y a plus d'incarnation ou en tout cas d'habitation par les personnages. C'est un dialogue qu'on pourrait dire hybride, mutant, qui mélange des natures de paroles très, très différentes. C'est là où il y a toute l'expérimentation de Lozano, quoi.
Et du coup, pour revenir sur ce qui nous a plu là-dedans, c'est effectivement ce que ça dit de la communication, de la difficulté à communiquer... tous ces dialogues de sourds, ces chassés croisés, ces rendez-vous manqués, puisque c'est des personnages qui ne sont pas sur le même plan théâtral, donc de fait ils ne peuvent pas se rencontrer entre narrateur et personnage dramatique. Et il y a cette espèce de rendez-vous manqué où il y a un personnage qui va se mettre à nu et dire des choses extrêmement émotives, extrêmement sensibles, et l'autre qui va répondre par une didascalie, et on change de scène. Donc c'est ce chose où on voit la solitude extrême de tous ces personnages qui n'arrivent pas finalement à se rencontrer.
Et qui arrivent à se rencontrer justement dans l'autre niveau. Enfin, il y a quelque chose qui vient compléter cette solitude, cette vacuité. L'autre niveau de narration, finalement, il est là avec une bienveillance autour de ces personnages qui deviennent attachants, en fait, malgré vraiment leur névrose, leur folie, leur difficulté à se mettre en relation.
Oui, ce qui nous plaît dans ce texte et en général chez Lozano, c'est qu'il y a une tendresse, en fait, une humanité très forte qui fait que quand bien même tous ces personnages sont un peu étranges, un peu névrosés, pas toujours sympathiques, il y a zéro misanthropie dans son... Et il y a toujours une espèce d'indulgence Et y compris quand ils se moquent d'eux, y compris quand il y a un aspect parodique très fort ou un aspect vraiment névrosé très fort, y compris dans ces moments-là, il y a toujours, je trouve, effectivement une vraie tendresse qui se dégage de l'écriture et que nous, on a essayé de rendre aussi bien dans la traduction que dans la mise en scène. Salut chérie, je savais que c'était toi. Je savais que tu allais m'appeler juste là, juste maintenant. Bon, c'est vrai, avant, j'ai cru que c'était toi qui m'appelais. J'ai cru que c'était toi la première fois que le téléphone a sonné. Et en fait, je t'assure, c'était très drôle. J'étais en train de penser à toi, et pile à ce moment-là, le téléphone sonne. Et mes pensées se sont mélangées au son, et j'ai répondu, convaincue que j'entendrais ta voix à l'autre bout du fil. Mais c'était pas toi. Bon, et quand j'ai raccroché, en fait, c'était avant de raccrocher, j'ai trouvé une feuille de rose séchée. Un pétale, je veux dire. Et je me suis mise à penser à toi de nouveau. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je ne sais pas pourquoi cette feuille était là. Tu sais que je n'ai que des plantes qui ne fleurissent pas. Je n'aime pas que les plantes changent, que d'un coup apparaisse un appendice de couleur vive, qu'elles se transforment en autre chose. Moi, j'aime que les plantes soient vertes et restent vertes. C'est ce que j'aime en elles, leur obstination à rester verte. Tu le sais, non?
Est-ce que c'est ce qui manquait, en fait, dans la première traduction? Vous avez dit que c'était en deçà du texte. Et vous avez parlé des niveaux de narration, des personnages qui sont dans différents spectres en fait narratifs. Est-ce que c'est ça qui vous a déplu dans la première traduction et qui ne fonctionnait pas?
Tout à fait. Je trouvais qu'en fait on perdait cette complexité qui était forcément voulue. Ça simplifiait en fait parce que c'est vrai que c'est un texte assez compliqué parce qu'il y a ces différents niveaux qui superposent. Il faut passer de l'un à l'autre. Et du coup, je trouvais que la traduction, la première traduction à laquelle j'avais eu accès, lissait un petit peu tout ça. Il y a notamment une partie qui concerne les pronoms. Une grosse différence entre l'espagnol et le français, c'est que les pronoms ne se prononcent pas en espagnol. Voilà, à part à un moment où on peut insister. Sauf que dans ce texte de Lozano, en espagnol, tous les pronoms étaient là, étaient dits. Ceux, en tout cas, des personnages de lui et de elle. Et du coup, ça me semblait vraiment spécial d'avoir effacé, disons, cette singularité, puisque en français, les pronoms sont là. Donc voilà, en français, on le lit et on ne voit pas qu'il y a vraiment cette torsion de l'espagnol dans la langue originale.
Leurs pronoms sont devenus leurs prénoms, en fait.
Donc moi, j'ai essayé dans la traduction ensuite d'insister sur ça, même typographiquement, en mettant en italique, en mettant des majuscules. Et ça m'a même obligée, en tout cas c'est le choix qu'on a fait quand on a traduit, à faire une certaine harmonisation avec les autres personnages, que du coup j'ai aussi mis en italique, pour qu'il n'y ait pas justement de spoiler, on va dire. C'est-à-dire que tous les personnages qui sont au même niveau, en espagnol, en tout cas, ils ne sont pas différenciés dans la distribution initiale. Mais je ne voulais pas que par moi, les modifications que le français m'avait obligé à faire, notamment l'italique et l'inscription des pronoms qui n'apparaissaient pas, je voulais garder l'harmonie entre les personnages. Et donc, les noms de tous les personnages sont passés en italique. Pour rendre cette spécificité.
Et les italiques au plateau, ça donne quoi?
Ben voilà, moi c'était le but, c'était qu'on ne passe pas à côté de cette spécificité. Et ce qui m'intéressait dans l'italique, c'est que contrairement, je ne sais pas, mettre en majuscule, qui aurait été une option, mettre en gras, ben je crois que l'italique, ça indique juste qu'il y a quelque chose de spécial, là, qu'il faut traiter, on ne peut pas l'oublier. Mais d'un autre côté, je ne vous impose pas la force ou l'insistance. Je vous dis juste qu'il y a quelque chose de particulier. Et l'italique me semblait rendre ça. En plus aussi de faire le clin d'œil au didascalique, qui est quelque chose justement de très présent. Le paradoxe du texte, c'est qu'il n'y a pas de didascalie du tout, comme il y a dans un texte de théâtre. Parce qu'elles sont intégrées. En même temps, comme elles sont verbalisées, à partir du moment où elles sont verbalisées, ce n'est plus des didascalies objectives. Donc, quelque part, ça rentre dans le niveau du subjectif du discours. C'est appliqué ou pas, c'est des didascalies ou pas. Donc, c'est vrai que ça me paraissait intéressant, l'italique, dans ce cadre-là.
Il y a eu quelques passages du texte, il me semble, où par contre, tu ne l'as pas fait à chaque fois, puisque ça aurait été extrêmement lourd, mais il me semble qu'il y a eu quelques passages, si je me souviens bien, où tu as rendu cette insistance. Par exemple, à elle, ça l'embêterait de, enfin, elle, ça l'embêterait de, enfin, ou elle, ça ne la gêne pas que.
Oui, exactement.
Donc il y a eu quelques moments où tu l'as un petit peu renforcé quand même.
Absolument.
Il me semble, en plus de le mettre en italique.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire de ce pronom, ne pas le laisser en pronom sujet personnel, mais que ça devienne un prénom, en fait. Enfin, que ça devienne le nom du personnage. Et donc, quand c'était nécessaire, doubler le elle prénom entre guillemets et le elle pronom. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui. Ce qui veut dire que l'un dans l'autre, dans le texte, le pronom elle ressortait suffisamment souvent pour créer une forme d'accoutumance, je pense, de l'oreille, ce qui permettait de pas en faire 3 tonnes non plus, même si moi il me semble que dans le jeu on l'a quand même marqué de temps en temps. On a essayé de le marquer de manière subtile. Et pas à chaque fois, encore une fois, puisque sinon ça devient inaudible. Mais il a suffi du coup de le marquer quelques fois, et à l'aide de ces passages où c'était pas nécessaire, pour créer, je pense, cette espèce d'accoutumance sur le fait que tout le monde sait que, ok, qu'elle s'appelle elle. Il me semble.
Oui, oui. Et le pronom il en espagnol, du coup, là, je l'ai traduit lui, pour que l'insistance elle soit aussi plus forte, et parce que je trouvais ça aussi plus poétique. Lui regarde le fleuve plutôt que il regarde le fleuve. Il y avait quelque chose où c'était plus facile de le rendre personnage et prénom avec le lui.
Et du coup, quand vous l'avez monté, quand vous l'avez joué, comment ça s'est passé au niveau, ne serait-ce peut-être de la prononciation de ce pronom-là, quelle stratégie vous avez adoptée? Enfin, si vous avez adopté une stratégie dans la diction du pronom.
Peut-être que je commence par mon ressenti du côté passé de la traduction à la mise en scène. Comme je disais à Gabriella, quand on réfléchissait à cette rencontre aujourd'hui, moi, c'était quelque chose qui m'obsédait un peu au moment de traduire, au moment d'analyser. Parce que quelque part, mon intérêt, c'était de voir comment la forme dramatique, elle est transformée, elle est déviée. Donc, je trouvais ça fondamental. Et en fait, de passer à la scène, on se rend compte qu'on ne peut pas être en train de traiter des questions formelles, non, et seulement esthétiques. Enfin, il s'agit de rendre ça vivant, de rendre ça accessible, incarné, et que donc, à un moment donné, la préoccupation presque intellectuelle du renouvellement de la forme théâtrale, je me rendais compte aussi qu'il fallait que ça devienne abordable, quoi, et que donc, on n'allait pas faire une mise en scène. Enfin, moi, j'ai apprécié beaucoup ça dans le travail de Gabriella. C'était pas une mise en scène d'analyse de texte, quoi.
Oui, non, vraiment, il faut quand même que le public puisse prendre du plaisir. Sur les pronoms, je pense que très, très concrètement, effectivement, moi, j'étais peut-être préoccupée par d'autres choses et du coup, ça crée un équilibre assez intéressant. Je pense que, si je me souviens bien, on avait fait attention. Le texte est assez bien mené de ce point de vue-là, puisque les personnages sont présentés un par un. Et donc, il y avait cette possibilité, au moment de la présentation du personnage, de faire une insistance sur le pronom. Il y a lui, et maintenant il y a lui, ou qui a toujours pensé que, etc. Ou maintenant il y a l'autre, qui, ta 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 ta. Et du coup, ce fait que c'était relativement marqué, qu'il y avait un moment où ça pouvait être relativement marqué dans le texte, ça permettait de le marquer à ce moment-là, dans l'intonation, dans la gestuelle, pour créer un petit effet de pancarte, j'ai envie de dire, pour reprendre le côté un peu brechtien, ce qui permettait ensuite de lâcher un petit peu et de se concentrer sur le reste, puisque moins que de savoir qu'il s'appelle lui ou qu'il s'appelle l'autre, il s'agissait aussi de lâcher et de maintenant s'intéresser à ce qu'il a à nous dire.
Je voulais revenir sur l'aspect poétique, parce que vous avez parlé de l'aspect poétique du texte, et là, de respiration, de répétition aussi, sur lesquelles il ne fallait pas trop insister. Donc la respiration a joué un rôle essentiel aussi dans votre réflexion sur le texte, parce qu'on a l'impression à vous écouter qu'il fallait insister, mais pas trop, qu'il fallait donner des pistes aux spectateurs, mais pas trop. Enfin voilà, comment est-ce que vous avez respiré le texte, j'allais dire.
Oui, effectivement, dans la mise en valeur des pronoms, on l'a fait ponctuellement, effectivement, en laissant une respiration, en laissant un petit temps, en marquant une petite insistance. Pour le reste, au niveau de la respiration, il y a un personnage qui est particulièrement intéressant, c'est le personnage de lui, justement, puisque on pourra essayer de le rendre en lecture peut-être tout à l'heure, mais il y a une particularité de l'écriture de ce personnage, il y a 0 ponctuation dans sa parlure. C'est le seul. Tous les autres sont écrits de manière plus conventionnelle, mais lui, il a une parlure fleuve, en fait. Il y a quelques points, peut-être. Mais il y a zéro virgule et des phrases qui font des pages entières. Donc c'est ça, je rebondis là-dessus, puisqu'en termes de respiration, ça a été un vrai défi. Et probablement qu'en termes de traduction aussi.
Je te laisse
peut-être revenir là-dessus, ensuite on peut revenir sur le jeu.
Oui, oui. Bah oui, la tentation, elle était super forte de ponctuer plus, de faciliter le travail, encore une fois, de lisser un peu, parce qu'il y avait vraiment plusieurs lignes sans ponctuation. Et en fait, non, là, ce qu'il fallait trouver, c'était pas faire du littéral, parce que c'était vraiment très, très, très peu présentable, mais trouver la manière en français de répondre à cette poésie avec des inversions de mots, du nom, du verbe, avec des prépositions en plus, des astuces qui faisaient que c'était quand même aussi beau en français, mais sans avoir à ponctuer. Et je sais qu'il y a eu une version où c'était un peu plus ponctué, et heureusement, voilà, j'avais pu échanger avec Éloi Recoing, qui est un traducteur de théâtre et en même temps qui est enseignant-chercheur à Paris 3, et qui m'avait interpellée sur ça, sur le fait que ça allait être dommage, en fait, de faire ce choix en amont, alors que le comédien, lui, aussi difficile que ça soit l'appropriation, voilà, il pourra lui-même résoudre à sa manière cette question de l'absence de ponctuation.
La chose absurde, c'est que tu ne puisses pas voir le vide de ta cage, l'immensité du monde, et toi si minuscule dans un tableau si grand. Dans ton monde, il n'y a de place que pour ton monde. Dans ta vie, il n'y a de place que pour ta vie. Dans ta cage, il n'y a de place que pour ta cage. Parce que tu ne peux rien concevoir au-delà de ton gosier, au-delà de ton museau, au-delà de ta myopie stupide. Et mon intention n'est pas de t'insulter, de te mettre mal à l'aise. Je ne prétends même pas parler avec toi, puisque je sais que tu n'es pas là, je sais que tu es parti, comme toujours. Je sais que ton agenda t'oblige à changer d'espace à la recherche d'un terrain solide, d'une chose qui ressemble au lieu où tu dois être, où tu veux être, où ta langue serait celle de tous, où tu ne serais pas un îlot perdu dans le vaste tourbillon du fleuve.
Parce que je me permets juste une petite question, parce que du coup, au moment où tu traduis, toi, tu penses à la mise en scène qui va venir derrière. Donc, est-ce que c'est un biais que tu as eu et qu'après, ce rapport toujours qu'il y a entre le texte et la mise en scène, finalement, comment ça a joué dans ton biais de traduction ?
Oui, c'est vrai que quand, par exemple, on expérimentait avec des interprètes la lecture, ils nous disaient, franchement, c'est hyper difficile, ça accrochait beaucoup, voilà, c'était très compliqué. Donc on a quand même pris en compte ça pour essayer de le rendre, efficace, de le rendre énergique, qu'il y ait un courant qui passe, qu'il y ait un flux qui passe malgré, voilà, tout en maintenant ça.
Ce que tu as vraiment rendu dans ta traduction, je trouve, c'est l'aspect musical, en fait. C'est que moi, c'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de rendre dans le jeu, c'est qu'il y a un côté presque slam dans ce truc-là, ce qui fait que la ponctuation, au bout d'un moment, on s'en fiche, effectivement. Enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète, et que là où t'as travaillé, c'est une musicalité, c'est.
Et la ponctuation, elle a réinventé par l'interprète, en fait.
Oui.
Voilà, lui-même ou elle-même reposera une ponctuation, mais avec quand même cette consigne d'une parole fleuve. Enfin, là, pour le coup. Il y a clairement il y a l'indication que l'acteur, il faut qu'il rende aussi ça.
Oui.
C'est sûr.
Et du coup, en jeu, je sais qu'avec notre comédien, je me rappelle maintenant qu'on en parle, qu'il y avait une étape où je l'avais remis. Mais c'était juste pour une première approche du texte, pour ne serait-ce que comprendre et essayer de détacher les unités sémantiques et comprendre vraiment ce qu'il est en train de dire. Puisque au premier abord, pour le lire, c'est pas évident. Donc il y avait un peu ce côté, on les avait remis ensemble, juste pour avoir une première approche du texte et être sûr que dans sa tête, les unités de sens sont très claires, que lui le sens qui, que je me suis dit que si le que oui que pour lui le sens devait être absolument clair, et les unités, les propositions, la syntaxe devaient être assez claires dans sa tête. Pour, dans un deuxième temps, mieux réussir à l'éliminer et qu'on puisse retrouver cette parlure fleuve un peu mécanisée avec des pauses moins syntaxiques que musicales et poétiques. Mais je me souviens qu'il y a eu un travail par étape à ce niveau-là. Notre chance, c'est qu'il était musicien aussi, donc il était sensible à ça. Mais ouais.
Et après, peut-être, Agatha, pour revenir sur ta question du biais, de quelque part, ça va influencer la mise en scène et tout. Je pense qu'il faut faire avec ça, vraiment, que quand on va traduire du théâtre, on sait qu'il y a une suite, que ça ne s'arrête pas là et qu'on va être le nouvel original, entre guillemets, dont va s'emparer une équipe. Et il y a forcément une espèce d'anticipation de la mise en scène, des intentions des personnages. Donc, je pense qu'il faut faire avec ça, parce que si on ne fait pas avec ça, il y a une espèce d'absence énorme qui fait que dans le texte, ça, justement, on a du mal après à le transmettre. Il faut faire certains choix, il faut assumer certaines interprétations. C'est pour ça qu'il y a un lien entre traduction et dramaturgie. On anticipe la mise en scène, interprétation et par les comédiens et par le public. Mais d'un autre côté, on n'est pas là pour résoudre comme un spectacle, entre guillemets, va résoudre, va incarner, va concrétiser sur scène. On ne doit pas spoiler ou faire des choix qui sont trop définitifs. Quand je vous parlais des pronoms tout à l'heure, comment on fait un choix qui indique qu'il y a quelque chose de spécifique, mais sans donner la solution.
Pour le dilemme entre la page et le plateau, je ne sais pas si ça t'a fait la même chose, Nina, mais le fait d'avoir les deux casquettes, d'être à la fois le traducteur et le metteur en scène, ça a fait que, en tant que metteur en scène, on peut se permettre des libertés par rapport au texte. C'est très très admis socialement maintenant. Donc moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir fait un choix de traduction et au moment de la mise en scène de me dire non, en fait, ça ne me plaît pas, je vais le changer, mais de m'interroger sur cette liberté que je prends maintenant. Est-ce que c'est une liberté de traductrice? Et que du coup, si je devais le publier, je le publierais de cette manière-là? Ou est-ce que c'est une liberté de metteuse en scène, mais en revanche, je vais garder la publication telle qu'elle dans un premier temps? Et je me disais que peut-être tu t'es posé la question après notre travail de qu'est-ce que tu gardes, que nous, on était heureux de garder pour notre spectacle, mais est-ce qu'au moment de la publication, en remettant ta casquette de traductrice, est-ce qu'il y a des choses où tu es revenue en arrière, peut-être?
Ben oui, ça fait écho à ce qu'on discutait tout à l'heure avec Agatha, de savoir il y a forcément quelque chose que la traduction anticipe, décide, oriente, mais après, c'est une mise en scène particulière qui va vraiment faire des choix, les poser, notamment couper certaines parties ou adapter vraiment des choses. Comme tu dis, je pense qu'il y a eu la version pour notre mise en scène et il y a la traduction qui reste la plupart de ce qu'elle était à l'origine. Par contre, quand on s'est rendu compte qu'au niveau du lexique, il y avait vraiment des choses problématiques, pas entendables et tout, il y a des petites modifs quand même que l'expérience de la mise en scène et du jeu et en dialogue avec les autres interprètes du spectacle qui là restent définitivement dans la traduction parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui était problématique, pas clair. Voilà, non, l'expérience aussi du plateau, elle aide à faire des choix, à améliorer la traduction, quoi.
Oui, complètement. Et effectivement, le principe de mettre en bouche, ça j'avais pu faire l'expérience aussi sur mon autre spectacle, sur une phrase d'une traduction qui, sur le papier, est tout à fait pertinente. Elle est pertinente, on n'accroche pas du tout à la lecture. Et on se rend compte en répétition que systématiquement, le comédien trébuche dessus. Et on se rend compte qu'elle est difficile à prononcer et que c'est un problème. Et ça, c'est une chose très concrète qui a pu arriver de temps en temps.
Ouais,
ça, c'était vraiment intéressant dans le fait de faire le travail de plateau.
Oui. Après, bon, voilà, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais moi, je vois que Gabrielle pourra le dire, je suis une comédienne qui change systématiquement le texte. Enfin, c'est terrible. Donc là, j'avais complètement oublié, moi, ma traduction. Ça, c'est vrai que je te le disais, il y a un moment donné, je me suis sentie pas la traductrice de ce texte. C'était un texte, notre matière de jeu. Je me sentais pas l'autrice ou la gardienne de la traduction. J'étais la première à dire autre chose que le texte, quoi. D'ailleurs, c'était pas très bien, mais comme quoi...
Mais si. En tout cas, ouais, il y a un côté, le texte, il est resté mouvant pendant tellement longtemps que je me suis demandé si c'était pas difficile de figer à la fin et de prendre une décision finale au moment de la publication, ce qui n'était pas forcément évident.
Oui, parce que ça, c'est peut-être la dernière étape dont on peut vous parler du projet, c'est-à-dire qu'il y a eu cette année l'opportunité, donc dans la suite du... Comment dire, dans la dynamique du colloque qui avait lieu en 2016 et qui nous a donné l'occasion de mettre en scène et de créer tout ça, on a repris contact avec donc Isabelle Reck, des presses universitaires de Strasbourg, et on a eu la possibilité de publier dans la collection Amartya, La traduction bilingue, donc espagnol-français, avec un appareil critique. Là, donc, ça a été fait avec Gabriela Serban et Johanna Sanchez. Voilà, donc autour de cette traduction, celle de Justine Duval et la mienne, il y a eu tout l'appareil critique d'introduction, contextualisation historique, analyse du texte, entretien avec l'auteur et bibliographie critique. Ouais.
Tout en édition bilingue, du coup.
Oui, oui, oui.
Et du coup, le moment où vous avez joué au sein d'un colloque, est-ce que ça a eu des incidences sur le texte en tant que tel, les retours critiques que vous avez pu avoir, sachant que vous aviez déjà travaillé très académiquement et intellectuellement le texte auparavant? Est-ce que ça vous a donné une nouvelle lecture, ou est-ce que vous êtes resté sur ce que vous aviez déjà interprété ou mis dans vos choix de mise en scène?
Je pense que sur le texte en lui-même, on l'a pas beaucoup fait évoluer. En revanche, on a beaucoup. Le grand défi en termes de mise en scène de ce texte, c'est vraiment son efficacité dramatique, puisque tout le principe de la pièce, c'est d'expérimenter les limites entre roman et théâtre. Donc tout le principe de la pièce, c'est de parasiter l'action par une hypertrophie de la parole. Et ça, c'est un vrai défi en termes de mise en scène pour le rendre dynamique et le rendre efficace dramatiquement, puisque c'est du théâtre très lu, c'est un théâtre qu'on peut facilement lire. Et du coup, ça a été pas particulièrement la première représentation, mais petit à petit, un travail pour dynamiser la mise en scène, pour dynamiser ce texte qui est fait pour être... Pour constituer ce défi-là, je ne sais pas si tu veux.
Ouais. Oui, oui, et on s'est rendu compte de du potentiel comique,
oui,
du texte,
tout à fait.
Avec le retour des gens, ou plus ou moins le retour, justement. Donc ça, c'est vrai que moi, j'étais surprise de commencer à rigoler, en fait, dans la salle, alors qu'il s'y passe des choses pas très réjouissantes. Il y avait ça, et il y avait le côté, finalement, quand même très, très... très complexe et incarné des personnages qui peut-être à la lecture, dans l'analyse, en plus avec toute le côté critique du personnage aujourd'hui qui est déconstruit, qui n'est pas vraiment un personnage, où il ne faut surtout pas être dans la psychologie. Au final, quand il faut mettre en scène, rentrer en contact avec se connecter, comme tu disais Gabriela, avec un public, en plus l'écriture de Lozano aussi, il y a des vrais personnages complètement touchants, émouvants, humains en fait. Et ça, je pense que moi, ça m'a aidé à mieux le percevoir.
Nous tenons à remercier Gabriela et Nina pour cette discussion passionnante. Merci de nous avoir écoutés et merci à l'Université d'Angers et à l'Académie Pulsar de la région Pays de la Loire pour leur soutien.
Vous pouvez suivre l'actualité du projet PICT sur notre carnet hypothèse. À bientôt!